Oriental. J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'écouter ces derniers numéros des paroles aux auditeurs de cette semaine. Le mardi 25 février dernier, Kinshasa a célébré une journée dénommée Blanc Ébène pour valoriser les albinos qui sont souvent victimes de stigmatisation dans plusieurs pays d'Afrique et notamment en RDC. Blanc Ébène, initié par la Fondation Mwimba Texas et soutenu par la Fondation Jetler, a été rehaussé de la présence du chanteur Salif Keïta et de la photographe belge Patricia Willock. Pour la Fondation Mwimba Texas, il est temps de favoriser un accès égal à l'éducation et l'intégration des enfants albinos sans discrimination dans la société. Quelle est la situation des albinos dans votre milieu et que faut-il pour leur prise en charge efficace? Nous en parlons avec Mwimba Texas, président de la Fondation Mwimba Texas, une ONG qui s'occupe des albinos. Gilles Lungembo assure la coordination et la réalisation de cette émission mise en onde par Sylvain Matundu. Pierrot et Lamégie vous la présente. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
La situation et la prise en charge des albinos au centre de notre échange d'un parole aux auditeurs. Quelle est leur situation dans votre milieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer efficacement cette prise en charge? Vos propositions et points de vue sont les bienvenus dans cette émission Mwimba Texas. Vous êtes avec nous en direct dans cette émission. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Merci d'avoir accepté notre invitation et nous accorder du temps pour parler des albinos. Il y a cette activité organisée ici à Kinshasa, Blanc Ébène. En quelques mots, peut-on avoir les bilans de la célébration?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je suis comblé de joie, surtout vous de la radio Capi. Vous nous cessez de nous accompagner, c'est tout ce que nous sommes en train de faire pour la sensibilisation et la conscientisation des albinos d'abord eux-mêmes. Et des non-albinos aussi, parce que je l'ai toujours dit que ce que nous sommes en train de faire, c'est de continuer d'abord à sensibiliser les albinos eux-mêmes. Les albinos sont censés d'abord de s'accepter et de s'accepter, et de demander aussi aux non-albinos d'avoir un comportement d'amour vis-à-vis des albinos. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons de la discrimination, ce n'est pas entre les albinos, mais ce sont des non-albinos qui se comportent ainsi vis-à-vis des albinos. Il y a des préjugés, des gens racontent n'importe quoi. C'est ce qui ne facilite pas l'intégration de la personne albinos dans la société. Mm-hmm. Et voilà pourquoi nous continuons à travailler. Donc, c'est vrai qu'il y a la photographe belge Patricia Willock qui est venue travailler ensemble avec l'ONG des albinos, la Fondation Mwimba Texas, qui s'occupe de la protection, la défense, l'encadrement et l'assistance des albinos et de personnes vulnérables. Elle avait fait des photos et qu'elle devait exposer, mais faute de moyens, il fallait trouver des partenaires. Voilà la raison pour laquelle la grande fondation Gertler, les amis comme des Lions Club, Wallonie Bruxelles, Vitmil, qui est tant d'autres, et sont venus appuyer vraiment cette rencontre pour que ce soit une réussite totale. Et surtout avec l'arrivée de notre aîné, le grand chanteur Salif Keïta. Et c'était une façon pour nous, pour moi personnellement d'abord, de me regarder encore davantage. Pourquoi pas que c'est un travail de longue haleine, un travail de titan. Quand on avait commencé le 16 juin 1998, il y a même des albinos qui me disaient, mais non, ce que vous créez là, ce n'est pas bon, parce que quand un seul albinos passe, il attire des gens en passant. Mais quand vous allez réunir beaucoup d'albinos, ça va attirer encore beaucoup plus d'attention. Ce n'est pas bon, je dis, non, mes frères et sœurs, vous êtes encore complexés. Moi, quand je fais quelque chose, j'aime tout aller jusqu'au bout. Et voilà, aujourd'hui, les gens commencent à comprendre que vraiment l'idée est géniale. Il faut continuer à expliquer des albinos, des difficultés que nous avons et que notre visibilité est affaiblie. Il faut qu'on en parle, par exemple, de la mélanine. Il y a la fragilité de la peau, parce que la maladie qui ravage des albinos, c'est le cancer de la peau. Il faut qu'on en parle. Et voilà. Et pourquoi nous expliquons même aux enseignants, nous disons que non, dans la salle des classes, en tant qu'enseignant, si vous avez un enfant albinos, c'est que les MIC puissent se mettre au premier banc, puis puissent avoir la facilité de voir au tableau. Et sensibiliser aussi des collègues ou d'autres élèves ou d'autres étudiants que non, les albinos sont des personnes à part entière, nous avons droit à la vie, donc il faut cesser la discrimination. C'est ce qui fait que même si l'albinos a une tête bien faite, mais s'il n'est pas fort mentalement, c'est difficile pour qu'il puisse émerger, c'est difficile pour qu'il puisse s'épanouir.
Mais Mimba, monsieur Mimba Telza, s'il vous plaît, Mais je sais que ça fait longtemps que vous militez, vous travaillez, n'est-ce pas, pour la promotion, le droit des albinos. Avez-vous l'impression que le regard change au niveau de la société, qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience en ce qui concerne la prise en charge des albinos? Y a-t-il des améliorations, des progrès, si on peut dire ainsi?
Mais bien sûr, si nous pouvons parler des albinos, d'abord, et même, monsieur le journaliste, nos amis de la radio Capi, avant, c'était difficile de voir deux albinos se promener ensemble. Parce que les gens disaient que non, les albinos ne s'aiment pas entrer. J'ai dit, mais non, c'est pas possible, nous, on va dans la guerre, ni nous, on va pouvoir pour attendre la bombe, il va l'été. Parce qu'on trouve des non-albinos qui se promènent ensemble. Mais pourquoi pas des albinos? Là, c'est déjà positif. Et avant, des albinos ne savaient même pas, même des parents des albinos, que l'ennemi numéro un des albinos, c'est le soleil. En expliquant, en organisant des joints de sensibilité de constatisation, les albinos eux-mêmes ont pris conscience, et les autorités aussi commencent à comprendre. L'autre fois, vous avez suivi que notre premier ministre, Matata Darko, ne m'a pas, nous a régi, mais il nous a aussi valorisé du fait de nous recevoir. Les gens nous ont pris aussi en considération. Il y a même des gens qui disaient, mais c'est exact, Simon M.P. Celui qui vous a régi, c'est le ministre des Affaires Sociales, ou vraiment le premier ministre. Il dit, mais non, il est en cravate rouge. Donc, c'est le premier ministre, Matata Darko. Et nous avons vérifié, moi, croyant que le premier ministre avait une dame albinos, ou peut-être qu'ils avaient de l'enfant albinos, mais non, j'ai compris qu'il est seulement sensible à la cause des albinos. Et donc là, même le chef de l'État avait dit que non, maintenant, même des albinos ou des personnes avec handicap sont censés se retrouver dans les institutions.
Merci.
Ça, c'est la première chose. Et voilà. Le chef de l'État avait dit que la discrimination cesse. Et il avait demandé à d'autres autorités d'emboîter les pas aux personnes vivant avec handicap. Parce que quand nous parlons de personnes vivant avec handicap, nous, les albinos, nous sommes là-dedans du fait que notre vivier est affaibli. C'est déjà un handicap. Que notre, par manque de la mélanine, la fragilité de la peau. C'est difficile pour qu'on puisse mettre un albinos sous soleil, même s'il va gagner 1000 dollars par mois, mais dans quelques mois, il aura des problèmes. Donc, la peau va se détériorer, puis après, ça sera le problème de conscience de la peau.
Voilà, on vous garde en ligne. Nous avons aussi les auditeurs qui nous appellent à travers le pays. On va cheminer ensemble des exemples aussi de ce qui s'est fait dans votre milieu pour faciliter la vie aux albinos. C'est que si vous avez d'initiative dans votre milieu, appelez-nous dans cette émission pour intervenir. 081 890 4969. Mais vous pouvez aussi contribuer avec des idées, des difficultés rencontrées, tout cela c'est partage ensemble dans cette émission. Nous avons Adrien qui nous appelle de Kananga au Kasaï occidental. Bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et bonjour monsieur Texas Mwimba.
Vous avez suivi notre introduction. Y a-t-il aujourd'hui à Kananga des initiatives, des structures qui se battent pour la promotion des albinos, voire même qui militent pour leur prise en charge au niveau de la société?
Merci Pierrot pour la question. Dans la province du Kasaï occidental, d'une manière générale, et dans la ville de Kananga d'une manière particulière, il ne se pose pas de problème tellement il n'y a pas de structure. Personnellement, je n'en connais pas, à moins d'un témoignage contraire. Je ne connais pas de structure qui s'occupe pour nos amis, nos frères albinos. Je vais commencer par vous dire que dans notre province, il ne se pose pas de problème parce que nous voyons les non-albinos se marier aux albinos, vice-versa. Et c'est vrai que si ce n'est que des petits taquins entre deux petits, donc des gamins qui se disent un peu des petites choses, mais des cas de stigmatisation, ça ne se pose pas tellement ici à Kananga et dans la province du Kasaï occidental, parce que vous savez que la constitution de 2006 a banni vraiment des discriminations dans toutes ses formes. Donc cette disposition constitutionnelle semble être respectée dans notre ville et dans notre province. Comme proposition, Pierrot, par rapport à ce que je suis en train de voir ça et là, je demanderai tout simplement à nos frères albinos d'enlever d'abord, donc de ne pas être complexés. Parce que c'est ça là, donc le problème qui se pose, ils sont un peu vraiment complexés, ils se considèrent comme si ce ne sont pas des humains et pourtant ils sont tous les trois donc reconnus par la constitution, par les lois du pays. Donc c'est un peu dans ce sens-là, si
ils ne sont pas complexés. Il faut vraiment faire des bonnes choses. L'exemple est de notre invité. Et lorsque vous le sentez, lorsque vous le voyez, apparemment, il n'a rien envié un non-albinos. C'est dans ce sens-là que je suis en train de lancer un cri d'alarme, donc, dans les chefs de nos frères albinos, dans les complexes-là d'infériorité. Et puis, pour finir, Pierrot, j'aimerais poser une petite question à notre invité. Monsieur de Grasse, ne croyez pas que, au travers vos initiatives, vous poussez davantage à mettre les albinos dans une situation de complexe d'infériorité. Pourquoi pas lors de votre journée là, de votre fête, pourquoi pas ne pas faire appel à d'autres artistes, par exemple non albinos, un certain Koffi Olomidé, un Manu Dibango, mais lorsque vous faites allusion à Félix Keïta, est-ce que vous ne restez pas donc dans ce sillage-là pour faire croire aux gens albinos que non, voilà, nous sommes entre nous, n'acceptez pas les non albinos?
Voilà, merci beaucoup Adrien pour cette intervention. Vous dites que dans la province du Kasai Occidental et dans la ville de Kananga en particulier, il n'y a pas de structure spécialisée, si on peut dire ainsi, qui s'occupe uniquement de l'encadrement des albinos. Mais dis-moi, un point positif selon vous, c'est que on ne sent pas les actes de stigmatisation, parce qu'il y a aujourd'hui des mariages entre albinos et non albinos, ce que vous voyez en dehors, peut-être des jeux entre des gamins, mais le problème ne se pose pas avec acuité dans la ville de Kananga, mais vous souhaitez, vous, qu'au niveau des albinos, qu'il y ait l'acceptation de soi, comme le disait tout à l'heure notre invité, à qui vous, d'ailleurs vous avez posé la question de savoir, mais à travers vos initiatives, le fait que vous ayez invité Salif Keïta seul, ou soit de réunir les albinos, n'est-il pas aussi le moyen de risquer de stigmatiser pour qu'ils se disent, voilà, ce sont des rencontres entre nous albinos, sans pour autant y inviter d'autres personnes, s'il faudrait dans l'avenir de telles actions et inviter aussi des non-albinos. Voilà, c'est la question qui a été posée à notre invité. Il pourra donner la réponse des moments à l'autre. Le temps d'écouter Papy qui nous appelle de Kinshasa, ici dans la capitale. Bonjour Papy.
Bonjour Monsieur Perrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capitale. C'est Papy Castel.
Vous avez suivi notre ami les témoignages de Kananga, et par rapport à Kinshasa, pensez-vous dans votre milieu qu'il y ait des efforts qui sont faits au niveau de la société pour la prise en charge, pour faciliter, n'est-ce pas, l'intégration des albinos dans la société?
Merci M. Perrot de la parole. Force est de signaler depuis ma bord que les albinos sont classés parmi les groupes vulnérables et les minorités. Au regard de la constitution du 18 février 2006, telle qu'elle résidait à ce jour, spécialement à son article 51 alinéa 1 et 2 qui dispose, je cite, l'État assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à son épanouissement. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute que la protection, l'épanouissement et la promotion des droits des albinos est un devoir fondamental de l'État. Mm-hmm. Par conséquent, il doit à tout prix prendre les mesures favorisant leur intégration sociale, car les albinos sont souvent rejetés dans la société. Par ailleurs, pour rendre effectif l'épanouissement, la promotion et la protection des droits des albinos, je propose primo qu'on leur offre la possibilité et la facilité d'intégrer les institutions nationales, locales et provinciales, et qu'ils y soient représentés, à mon avis, d'au moins 2% selon leur faculté mentale, physique et morale, comme je l'avais proposé la dernière fois pour les personnes vivant avec handicap. Alors, secondo, que les pouvoirs publics rendent facile l'accès aux produits cosmétiques des albinos en rabaissant ses prix, car ils sont souvent désavoués à cause de la dégradation de leur peau, qui est due souvent aux produits cosmétiques qu'ils utilisent. Tertio, rendre accès facile au sein des universités, des écoles primaires, secondaires et professionnelles, afin d'éviter l'analphabétisme. Je propose aussi qu'on puisse renforcer la sensibilisation de la population sur les droits des albinos. Ceci demande le concours de tous, spécialement des personnes et structures influentes, en l'occurrence les confessions religieuses les partis politiques, les ONG, les artistes musiciens, les médias et j'en passe. Il faut en outre, M. Pierrot, incriminer de manière expresse, je dis bien, l'accusation des abinos de la sorcellerie. Enfin, pour terminer, j'invite les abinos de l'estime des choix, qu'ils ne soient pas complexés, qu'ils soient fiers de leur peau, qu'ils bravent surtout la peur, parce que très souvent, ils se sous-estiment eux-mêmes, alors qu'ils ont beaucoup de potentialités, beaucoup de compétences, beaucoup d'atouts comme toutes les autres personnes.
Merci beaucoup, papy. Merci beaucoup, papy, de nous avoir appelé de Kinshasa. Merci pour toutes ces propositions. Et pour vous, vous dites d'abord que l'État doit d'abord prendre des mesures très efficaces pour permettre l'intégration des albinos. Pourquoi pas avoir un pourcentage des représentations dans les institutions tant nationales que provinciales. L'accès aux produits doit être facilité. L'accès à l'éducation renforcé. C'est la sensibilisation au niveau des confessions religieuses, des ONG, des partis politiques sur les relations entre les non-albinos et les albinos, l'acceptation, il faut arriver à changer des regards au niveau de la société, et ça aussi c'est par rapport à des accusations du genre de sorcellerie, tout ça, il faut que ceux qui sont à la base de cela soient punis, mais aussi l'appel à l'acceptation des soins pour les albinos. Merci beaucoup papy pour toutes ces propositions. Arsène Akikuit, bonjour.
Bonjour, monsieur Thuron.
Et vous avez suivi, comment nous, ensemble, nous dégageons les pistes de solutions pour arriver à l'intégration des abunos et l'acceptation dans la société, mais aussi leur faciliter, n'est-ce pas, l'épanouissement comme tout le monde. Alors, pour vous, on doit passer par quoi?
Merci beaucoup pour la parole. Je commencerai d'abord par féliciter Mouimba Texas de tous les efforts qu'il est en train de mener. Je crois que ici chez nous, nous n'en avons pas tellement assez des albinos, mais il y a une attention particulière qui est un peu adressée vis-à-vis des albinos. Ils sont tous protégés par la population, par la famille, et je crois qu'ils ne se sentent pas à l'aise, ils ne se sentent pas mal à l'aise plutôt, je voulais dire. Je crois que tout handicap d'une personne physique doit être d'abord repoussé par la personne elle-même. Si les albinos parviennent à se dégager de ces malentendus qui se trouvent en eux-mêmes, je crois que ça serait le premier pari gagné. Parce que quand on se sent délaissé, on risque même de baisser les épaules, de se reculer en soi. Alors là, on se sent comme si on était repoussé par la population. Mais je dirais que la population est sensible. La population congolaise est sensible dans tout ce qui va mal. Alors, moi je dirais aux albinos, plus ils se mettent en peau d'une personne qui n'est pas dans un handicap, je crois que ça serait d'abord la première force. La seconde, ce sont ceux qui, par des éducations ou des instructions malveillantes, qui croient que les albinos ont une certaine particularité, que je dirais religieuse ou qu'est-ce que je veux dire, psychiatrique ou quoi quelque chose comme ça, je crois qu'ils doivent cesser. Ce sont des personnes tout à fait entières, sauf seulement qu'il y a un handicap qui se trouve sur leur peau et qu'on doit les appuyer à se sentir citoyens à part entière et se mettre dans l'ensemble de la population pour travailler à l'édification nationale. Voilà un peu ce que je vais dire.
Merci beaucoup, Arsène. Les premiers efforts qui doivent être fournis, au-delà du fait même que vous avez d'ailleurs félicité notre invité Mouimba Texas, qui se bat, qui se donne beaucoup de peine. Il se bat vraiment pour la promotion des albinos. Mais il faut d'abord travailler au niveau de l'acceptation de soi. C'est ça le grand handicap. Quand on s'accepte soi-même, on peut maintenant s'engager à pouvoir facilement s'intégrer, à repousser, se battre pour ses droits. Mais il faut aussi que le regard change au niveau de la société. Il faudrait que la conception que nous avons des albinos puisse changer, considérer que des personnes qui ont le droit de jouir de tous les droits au niveau de la société, on doit être engagé à cette sensibilisation-là. Merci beaucoup, Arsène. Nous allons écouter Jean Placide qui est à Kinshasa avant de accorder encore la parole à notre invité. Jean Placide, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre point de vue?
Bien, en fait, je salue tout d'abord mon prédécesseur. Ce qu'il a dit, c'est vraiment très important. Mm-hmm. Je crois que les albinos ne devraient toujours pas continuer à se sentir mis à l'écart, mis à part, parce que c'est un problème d'abord de soi. Je pense que pour ne pas répéter ce que mon prédécesseur a dit, mon apport juste dans cette affaire de la reconnaissance des albinos, ils doivent se mettre en tête que ce sont des personnes à part entière. Je crois que l'handicap, quand on vit avec un handicap quelconque, mm-hmm. il faudrait se mettre en tête que on est capable de faire mieux. Faire mieux, c'est dire que on est capable de faire quelque chose qui puisse peut-être vous mettre en exergue des autres personnes. Je crois que quand on vit avec un handicap quelconque, il faudrait chercher à se démarquer, essayer de faire en sorte que on se distingue dans le bon. Je crois mm-hmm. que à chaque fois vous avez toujours tendance à s'apitoyer, à se mettre à l'écart. Vous voyez que c'est un frein. Je crois que les albinos ont une intelligence qui puis permettre à notre pays d'avancer et qui puis contribuer à quelque chose, à l'émergence de quelque chose. Je pense mm-hmm. qu'ils devront mettre en exergue leur intelligence, leur savoir pour essayer de se démarquer des autres personnes. Et la deuxième chose, pour ceux qui sont non albinos et qui ne vivent pas avec handicap, ce sont des personnes qui doivent toujours reconnaître les personnes. L'acte qu'on condamne souvent, ce sont les personnes qui les méprisent, ce sont des personnes qui essayent de les injurier, des histoires comme ça, c'est ce qu'on déplore, mais l'État, le gouvernement devrait essayer d'honorer soit une personne vivant avec handicap, qu'on aime un albinos, chercher en fait une journée ou même les honorer. Pourquoi pas avoir un ministre, par exemple, albinos? Là, déjà, ça sort dans l'esprit de ceux qui sont chaque jour mal à point, qui sont un peu attristés de leur souffle pour dire que, mm-hmm. ah, voilà, il y a quand même des albinos qui peuvent être ministres et se dire qu'un albinos est un homme à part entière. Voilà un peu ce que j'avais à
merci. Merci beaucoup, Jean Placide, pour toutes ces précisions. Tout va d'abord de l'acceptation de soi, de sentir, de se distinguer, n'est-ce pas, et de prendre ce courage-là, mais aussi au niveau de l'entourage, au niveau de la société, on devrait honorer cela. Si on peut avoir au niveau des hautes responsabilités un albinos, ça peut aussi effacer cette image négative que l'albinos peut avoir de lui-même, pour dire, voilà, si celui-ci est capable de faire, s'il a été élevé à ce niveau, c'est que nous aussi, on peut arriver à faire quelque chose. Merci beaucoup, Jean Placide. Omar, vous restez en ligne, le temps d'accorder la parole à notre invité qui va réagir par rapport à toutes ces propositions de nos auditeurs. Je rappelle encore la problématique de notre échange. C'est par rapport à la prise en charge des albinos au niveau de la société, leur situation dans votre milieu, mais ce que vous proposez aussi pour arriver efficacement à le prendre en charge. Nous en parlons dans Parole aux auditeurs au 081 890 49 69.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h, autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capifoot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Parole aux auditeurs.
Texas Mwimba, vous êtes avec nous. Vous avez suivi beaucoup de compatriotes de Kananga à Kinshasa, bien sûr, en passant par Kikwit, plusieurs propositions. Mais une question aussi qui vous a été posée par rapport à la journée célébrée ici à Kinshasa. Est-ce qu'il y avait aussi d'autres artistes à inviter? Faudrait-il inviter des non-albinos quand on fait des manifestations pour éviter que ça soit considéré aussi comme seulement des manifestations qui s'adressent aux albinos? Voilà autant de propositions. Quel commentaire vous placez par rapport à ce qui a été dit?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les gens sont censés de comprendre d'abord que l'ONG des albinos, la Fondation Mwimba Texas, ne s'occupe pas seulement des albinos. Mm-hmm. L'ONG s'occupe de la protection, la défense, l'encadrement et l'assistance des albinos et d'autres personnes vulnérables.
Oui.
Et pourquoi le 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain? Les enfants ont été massacrés en Afrique du Sud pendant la période apartheid à Soweto. Et là, nous réunissons tous les albinos, mais ce sont des enfants qui sont à l'exergue. Nous réunissons les enfants albinos et non arrivant sur le même scène, ils vont faire des scénettes, des poèmes et tout, oui. Tout ça, c'est pour faciliter l'intégration et réduire la marginalisation.
Oui.
Et en plus de ça, je veux dire quelque chose. Nous, au sein de notre ONG, au niveau du comité, mais nous avons des gens comme Tyson Chimpa Kamouya, il n'est pas albinos, Zora Blandine, elle n'est pas albinos, notre attaché de presse, M. Denis Lubini, notre secrétaire, André Mouya, ce ne sont pas des albinos. C'est pour vous dire que si notre ONG s'occupe vraiment des albinos, nous sommes en train de lutter pour faciliter l'intégration dans la société.
Mm-hmm.
Et voilà. Et c'est ce que j'avais dit. L'albinos, nous les albinos, nous sommes d'abord censés de nous accepter. L'albinos est censé de s'accepter d'abord lui-même et de se faire accepter. Mais moi, je vais vous dire quelque chose, mon frère. La vie, c'est un combat. Rien de positif ne peut obtenir sans sacrifice de rien tout dire aux albinos. Ne croyez-vous pas que vous allez ramasser l'argent parce que dans d'autres points, les gens disent, oh non, ben nous avons des chances mises. Mais non! Vous êtes censé de travailler. Moi, je suis catcheur, mais quand j'avais commencé, c'était pas facile. Les venez que j'ai trouvé en catch, je viens en tout ça. You m'a dit, tu m'as dit, disais notre Texas, toi, en tant qu'albinos, tu ne seras pas mérité de faire le catch parce que vous êtes fragile. Et si je veux qu'on te donne un coup, ta peau change de couleur et tout comme ça. Je lui ai dit merci beaucoup, mais moi, je l'ai osé. Aujourd'hui, mais c'est les journalistes sans pour autant les vanter. On ne peut pas parler de catch aujourd'hui sans pour autant parler de Mouimba Texas.
Oui.
J'ai convaincu tout le monde et j'ai mis tout le monde d'accord dans notre façon de faire. Et ce que j'arrive à faire sur le ring, beaucoup de mes amis catchers qui ne sont pas albinos n'arrivent pas à le faire.
Mm-hmm.
Et pourquoi nous avons, la Fondation Gettler avait invité, fait tout pour inviter notre aîné Salif Keïta. C'est parce que l'aîné est en train de lutter aussi chez eux là-bas. Donc ils vont s'y ajouter en plus. Voilà, c'est une grande célébrité, ça permet aussi aux gens, même en allant même de venir assister, de profiter aussi de l'être aussi sensibilisé.
Oui.
Voilà, cela ne veut pas dire que nous nous travaillons seulement seuls et tout ça, même nos musiciens ici. Mais eux aussi peuvent s'organiser. Il y a plusieurs façons de soutenir quelqu'un, spirituellement, moralement, matériellement, financièrement. Et nos musiciens peuvent accepter de faire un concert, que voilà. Ce que nous avons, c'est pour que nous puissions soutenir des albinos, acheter des lunettes, des parasols et tout ça, des crèmes solaires pour soutenir les albinos. Sinon, nous sommes tous ensemble, il n'y a pas de souci.
Mais est-ce que par rapport à tout ce que les auditeurs ont proposé, hein, ce sont des pistes, des solutions pour arriver à faciliter à l'intégration et l'acceptation aussi des soins pour les albinos, mais il y a des produits, le problème des produits qui se posent. Mais est-ce dans vos plaidoyers, avez-vous déjà eu cette impression ou le soutien du côté du pouvoir public pour faciliter par exemple l'importation des produits, l'accès aux soins, l'accès à ces différents produits comme l'a souhaité notre ami Papy? Y a-t-il des efforts du côté du pouvoir public pour vous faciliter quand même l'accès, l'importation de ces produits-là, mais aussi l'accès aux soins?
Monsieur Joël, vous savez, nous avons encore beaucoup à faire, mais bien sûr qu'il fallait attendre 15 ans. Je venais de vous dire que l'ONG des Albinos, la Fondation Mouimba Texas, a été créée le 16 juin 1998, mais il fallait attendre un premier ministre au nom de Mata Tamponio pour venir quand même pour recevoir des albinos. C'est ce qui nous a permis, on venait d'organiser une rencontre internationale des albinos, mais le séjour de tous ces albinos qui sont venus de l'Europe, c'est le gouvernement. À l'entremise du Premier ministre, on fait un soutien. Mais nous avons préparé, que nous avons expliqué les difficultés que nous avons, mais il faut que d'autres autorités du pays puissent aussi emboîter les pas au Premier ministre. Parce que la sensibilité du Premier ministre, ce n'est pas pour d'autres ministres, ce n'est pas pour d'autres généraux. Mais bien sûr, l'autre fois, il y a un élève qui était menacé là. J'étais quelque part à l'emploi, j'étais censé d'appeler le général Kanyama, qui a envoyé rapidement la GIP pour arrêter ce monsieur-là qui était en train de menacer ces tarifs. Alors voilà, si les autorités peuvent se comporter, si je crois que ça sera vraiment intéressant.
Mais ça, ce sont les efforts que vous fournissez à Kinshasa, mais on a aussi des problèmes qui se posent ailleurs. Je me rappelle encore après la dernière émission, nous étions avec vous en 2011 au mois de juin, le 23 juin dans ce studio, on a encore parlé, et vous avez eu, je crois bien, beaucoup de coups de fil à gauche, à droite, les gens qui avaient souhaité se mettre en réseau avec vous pour l'encadrement. Y a-t-il aussi ces efforts qui sont fournis en province selon les contacts que vous avez?
Mais bien sûr, papa, moi je l'ai toujours le vieux Salif qui était venu, parce que moi j'ai toujours demandé aux albinos que nous sommes censés de travailler en synergie, mon frère, monsieur le journaliste, parce que nous sommes en train de lutter tous pour une même cause. Des albinos dans l'air, quoi, ils ont toujours parlé de problèmes de viol, la visibilité d'affaiblir, pour parler de problèmes de dermatologie et tout ça, parce que la fragilité de la peau. Et voilà, par exemple, moi j'ai déjà été en mouvement, j'ai fait un combat. Ici, en RDC, là où nous trouvons beaucoup plus de albinos, c'est dans les deux Kassai. Donc, mon souci, si aujourd'hui nous avons des financements, c'est de sillonner là partout pour sensibiliser, conscientiser les albinos et leur distribuer les paix que nous pouvons avoir. Mais tout ça, les raisons pour lesquelles nous demandons vraiment au gouvernement de nous accompagner, mais sinon nous sommes en contact avec d'autres amis, mais ils sont censés être aussi bien organisés là où ils sont, pour que nous puissions voir comment les soutenir.
Voilà.
Mais maintenant, mon souci, c'est de sillonner vraiment les provinces.
Merci.
Voilà.
Nous avons encore à Kinshasa Omar Servin Ndumba, qui est à Kisangani, qui est encadreur des albinos. On vous accorde la parole. Omar, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Pierre Lamège, merci du verbe que vous m'adjudiez.
Merci, vous avez suivi les uns et les autres. Hein? Le problème aussi va de la prise de conscience au niveau du pouvoir public. Il y a des ONG qui fournissent beaucoup d'efforts, on a suivi. Hein? Et puis on regarde d'ailleurs, on voit ce que Texas Mwimba fait, hein? Comment il est en train de se battre pour permettre, pour encadrer et faire la promotion des albinos. Mais d'un côté aussi, il faudrait que le pouvoir public se mobilise pour avoir des initiatives, des textes aussi juridiques qui permettent aussi l'accès facile, que ce soit à l'éducation, pour améliorer et permettre ainsi que ceux qui sont à Kinshasa se sentent aussi à l'aise, ceux qui sont en province puissent sentir à l'aise comme ceux qui sont à Kinshasa. Voilà autant de problèmes qui se posent dans ce secteur de l'encadrement des personnes vulnérables et particulièrement des albinos. Quelles sont vos pistes de solutions, Omar?
Merci beaucoup, l'excellentissime Pierre Lamézi. Je voudrais faire mienne ce que vous venez de dire sur la prise de conscience. Moi, je pense que la civilisation d'un État repose aussi par le respect des normes qu'il établit. Mm-hmm. On reconnaît un État civilisé lorsque ce citoyen qui y vive arrive à respecter les normes qu'ils ont établies. Nous avons beaucoup de textes qui protègent les droits des personnes vivant avec handicap ainsi que des albinos. Mais c'est que nous remarquons que ces lois n'ont jamais été respectées. Je parle seulement d'un seul article puisque le temps fait défaut. Mm-hmm. L'article 12 de la loi fondamentale, c'est la Constitution. Ces derniers disposent que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont de droits égaux, c'est-à-dire ils ont droit à une égale protection de loi. Mais lorsqu'on fait une étude comparative entre ces grandes dispositions qui existent et la réalité sur terrain, nous remarquons des discriminations et des stigmatisations qui nous poussent à proposer ce QC. Premièrement, pour la réelle protection et promotion des albinos, parce qu'ils sont des hommes comme nous et ils ont droit à la même protection de loi, il faudra qu'en vertu de l'article 49 alinéa 1 de notre loi fondamentale que j'ai cité, que les pouvoirs publics dans leur ensemble arrivent à protéger. Cette protection passe, mais c'est pour eux, par 1. La mise en place d'une loi qui dispose des dispositions contraignantes qui désormais qu'on érige en infraction toute discrimination. C'est-à-dire, si quelqu'un fait souffrir un handicapé ou fait souffrir un albinos, on considère cela comme une infraction. À l'heure actuelle, la loi est encore en discussion au niveau du Parlement. Je voudrais qu'on intègre cet aspect d'infraction pour toute discrimination. Mmh. Il faudra aussi que le gouvernement, qui a, n'est-ce pas, la mission d'exécuter les lois d'un État, puisse disposer des produits pour leur bien-être, aussi des activités culturelles. Pour la paix au Bangui, il a fallu que Youssou N'Dour chante avec une autre femme. On a vu que la culture peut aussi être pour beaucoup. Il faudra qu'il y ait des chansons, des activités théâtrales qui puissent sensibiliser les albinos ainsi que les non-albinos. Et pour finir, il faudra que le pouvoir judiciaire, qui a la mission d'appliquer les lois, puisse condamner. M. Tezas a donné un cas des colonels qui a envoyé la DIP. Il faudra que le magistrat du parquet, il faudra que les policiers, les OPG puissent condamner et arrêter tous ceux qui discriminent les albinos. Et pour finir, M. Pirot, je voudrais parler aux albinos eux-mêmes. On dit souvent que des fois, les mâles triomphent parce que les gens bons sont inactifs. Et on dit devant le mal, il ne faut pas être indifférent, il faudra agir. Je voudrais interpeller l'albinos lui-même pour lui dire que ce n'est pas la couleur de la peau qui détermine la capacité des hommes, c'est plutôt son cerveau. Et je voudrais aussi interpeller les albinos qui ont réussi. Ils emboîtent le même pas comme M. Salif Keïta, comme M. Texas Mwimba que nous félicitons, qui ne puissent pas être indifférents, car il n'y a pas eux-mêmes, en dehors d'eux, ceux qui pourront, n'est-ce pas, tenir compte de leur état. Voilà, je pense que si ces deux solutions, et au niveau des gouvernants, et au niveau des albinos eux-mêmes, sont réunies, je pense qu'on pourra parler de ces cas et qui pourraient, n'est-ce pas, être améliorés. Mais je voudrais finir pour féliciter M. Texas pour le travail des titans qu'il a là-bas et que Dieu le bénisse abondamment.
Merci beaucoup, Omar. Vous avez évoqué l'article 12 de la Constitution. Tout le monde est égal devant la loi. Le problème dans notre pays, c'est le respect de textes juridiques. Mais au-delà de tout, il faudrait qu'on puisse aussi ériger en infraction le fait de discriminer, de stigmatiser les personnes vivant avec handicap et particulièrement les albinos, qui est les personnes qui ont des dispositions contraignantes au niveau de la loi, mais que l'État aussi joue son rôle, l'accès aux produits, les activités culturelles. Et cela veut dire que cela ne doit pas être ponctuel, mais ça doit être dans la structure même de conception des politiques pour les personnes vivant avec handicap et des albinos. Mais il y a aussi la condamnation, au-delà du fait qu'on puisse appeler la police quand une personne vivant avec handicap et un albinos est menacée, mais que les magistrats qui sont à la recherche des infractions puissent saisir des dossiers, des gens qui stigmatisent, qui discriminent, pour qu'ils soient jugés et condamnés mais au-delà, vous avez appelé les albinos à pouvoir travailler ensemble tout en louant les efforts fournis par notre invité. Merci beaucoup Omar de Kinshasa. Nous avons Servin Ndumba qui nous appelle de Kisangani en province orientale. Servin, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Mais et vous, sur place à Kisangani, vous encadrez les albinos. Décrivez-nous un peu, en bref, en quoi consiste votre travail auprès des albinos à Kisangani.
Merci. D'abord, je vais féliciter notre ami Mouimba Tegas pour sa fondation. Il est en train d'abattre sur place à Kinshasa et ailleurs. Tegas, que nous avions fait venir ici à Kisangani en 2008. Nous félicitons la radio Capi pour l'accompagnement qu'elle est en train de faire pour la promotion et la protection des personnes albinos. Et pour rentrer dans votre question, c'est que l'ACODEPA, qui signifie tout simplement Association pour la protection et le développement de la personne albinos, a des objectifs qu'elle est en train de poursuivre. Il y a la protection, la promotion et le développement de la personne albinos vivant en RDC.
Et en termes d'activité, vous faites quoi au juste? Est-ce que vous leur permettez l'accès à l'éducation? C'est dans quel domaine précisément vous travaillez pour la promotion et le développement des albinos?
Oui, pour la protection, nous avons deux volets. Il y a la protection dans les domaines de santé et dans la protection dans les secteurs du droit. Il y a, vous savez, la santé, comme a dit notre ami Texas et les autres auditeurs, la santé de la personne albinos est très fragile. Il y a la peau, il y a les problèmes de yeux qui posent problème toujours. Nous passons aussi dans l'aspect droit, la protection des droits. Vous savez, il y a le cas de meurtre, d'assassinat et d'agression faite à la personne albinos. Au moment où je vous parle, j'ai devant moi les rapports des agressions, de meurtres et d'assassinats de personnes albinos en RDC. Nous avons eu à enregistrer 27 cas d'assassinats, de meurtres de personnes albinos. À l'Est, au Kangani, dans le Nord et Sud-Kivu, nous avions eu aussi quelques cas arrêtés au Kasaï oriental parce que nous avons une antenne là-bas. Donc, nous avons des cas d'agression et de meurtre et d'assassinat des albinos. Voilà tout ça, nous avions mis ensemble. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir trois résolutions, messieurs les journalistes.
Allez-y, oui.
Nous avions eu deux résolutions au niveau du bureau conjoint. Au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, nous avons deux résolutions et nous venons d'avoir la troisième résolution au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà, on a eu l'avantage d'avoir trois résolutions en faveur des personnes albinos, d'Afrique certainement.
Mais aujourd'hui, par rapport aux efforts qui doivent être fournis là où vous êtes à Kisangani, avec la communauté, mais aussi l'autorité, qu'est-ce qui doit encore être fait? Voilà, autant d'efforts c'est que vous fournissez, mais qu'est-ce qui doit encore être fait au-delà de ce qui a été fait maintenant pour arriver vraiment à cet épanouissement de la personne albinos?
Ce qui doit être fait, nous commençons d'abord au niveau des familles. Vous savez, moi-même, je suis né dans une famille de trois albinos. Nous avions été bien accueillis au niveau de la famille et ça nous a permis de nous laisser ouverts avec la communauté. Nous sommes allés à l'école, on a trouvé des menaces, on a senti que non, ce n'est pas un problème. Nous avions réussi à franchir et on a évolué et nous sommes aujourd'hui nous-mêmes, nous vous parlons ici, on a un diplôme de licence en pédagogie appliquée. Donc, c'est d'abord au niveau de la famille. Il faut que l'acceptation là soit d'abord au niveau de la famille, là où l'enfant est né, le premier accueil, quand on reçoit cet enfant-là, on dit comment on l'a reçu, comment les parents l'ont accueilli, et ça va permettre l'ouverture dans la société, dans la communauté. Et nous parlons aussi des efforts qu'on doit faire encore au niveau des écoles. Au niveau des écoles, il faut que les opérateurs scolaires puissent d'abord accueillir cet enfant.
Oui.
Et pas permettre que les autres élèves, quand ils sentent que non, l'enseignant n'a pas de frontières, l'enseignant n'a pas d'obstacle, et ça va permettre que cet enfant soit intégré au niveau de son école.
Mmh.
Nous parlons aussi du problème des mariages. Nous subissons ça ici. Et on peut avoir un partenaire, un conjoint, ou un fiancé ou une fiancée, ça pose problème au niveau de la belle famille.
Oui.
Non, on ne peut pas prendre ça, ce sont des sorciers, ce sont des gens qui disparaissent, ce sont des... il y a des choses, il y a des préjugés tout autour de la personne albinos. Ça aussi, nous devons chercher à bannir ou à réduire cette considération.
Merci.
Dans le... Oui, dans la sensibilisation, dans la sensibilisation. Mmh. Et enfin,
allez-y,
devant
oui.
aussi les autorités, l'État congolais, l'article 16 de la Constitution. Donc, on doit chercher à promouvoir cette catégorie de personnes. Pourquoi pas copier la personne albinos au niveau de l'Assemblée nationale? Parce qu'il y a des chefs coutumiers qui sont coptés. Et la personne albinos, si on arrivait à copier cette personne, on va la valoriser, on va donner des considérations à
merci.
Cette personne.
Merci
et
beaucoup.
Et toutes sortes de préjugés vont tomber de soi.
Merci beaucoup, Servin Ndoumba, de nous avoir accordé votre temps. Vous êtes à Kisangani, vous encadrez les personnes albinos et dans l'association Apro Départ. Beaucoup de choses ont été dites, hein, 27 cas d'assassinats, de meurtres de personnes albinos et dans les provinces du Nord, Sud Kivu, en province orientale, dans les pays voisins, mais aussi les deux Kassai. Il faut se battre pour ça, vraiment pour avoir un nouveau regard. Mais les efforts doivent être fournis au niveau de la famille. D'abord, le fait d'accueillir, d'accepter l'enfant albinos et au niveau de l'école, le regard des autorités, de l'enseignant, mais aussi au niveau du mariage, tous les efforts doivent être fournis. Mais pourquoi pas aussi au niveau des autorités, quand on copte les chefs coutumiers, on voit là dans les assemblées provinciales, pourquoi ne pas aussi copter la personne albinos pour pouvoir encourager les autres à travailler, à changer de regard. Merci beaucoup, Servin Ndoumba, de nous avoir appelé de Kisangani. Madame Cindy, vous êtes avec nous sur les antennes. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez des Katumba, c'est une localité hein, à la frontière entre la RDC et le Burundi, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Et je crois que vous vivez dans un milieu, dans une zone où on a eu beaucoup de cas d'assassinats, comme venait de le dire notre ami Servin de Kisangani. Alors, quels ont été les efforts qui ont été fournis dans ces milieux-là pour lutter d'abord contre les exactions que les albinos ont été victimes il y a quelques années, on en a beaucoup parlé.
Oui, c'est ça, c'est vrai. Jusqu'à là, un peu, les albinos étaient un peu dans l'anonymat au niveau du Burundi.
Mmh.
Mais ils ont défrayé la chronique, je crois que c'était en 2009, si je ne me trompe pas.
Oui.
Où il y a eu un vent de panique. Il y a quelqu'un qui a dit qu'au Congo, dans certaines régions, les albinos sont... on les considère comme des sorciers.
Oui.
Mais ce qui s'est passé au Burundi, c'est qu'à un certain moment... C'est plutôt les sorciers qui avaient recours aux albinos. Donc, on utilisait les membres des albinos pour faire de la sorcellerie.
Oui.
C'était vraiment quelque chose que tout le monde a découvert avec effroi, des cadavres des albinos qu'on a retrouvés un peu partout dans le pays, surtout à la frontière avec la Tanzanie.
Oui.
Et ça a été vraiment quelque chose d'inhabituel et... Directement, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a pris des mesures au niveau des communautés. Les albinos se sont réfugiés systématiquement au niveau des chefs-lieux des provinces, par exemple. Bon, ce qui était à Bujumbura, ça allait encore, mais ce qui était à l'intérieur du pays, dans les provinces, leur situation était plus précaire. Et on a vu, par exemple, des albinos qui carrément sont restés... dans les commissariats de police qui sont restés chez le gouverneur parce qu'ils se disaient non, on est en danger. Donc il y a eu ça. Et pour un peu rejoindre aussi ce que les uns les autres ont dit par rapport aux albinos,
oui.
Moi je pense que la première des choses c'est d'abord vraiment de travailler au niveau familial. Parce qu'un enfant qui est déjà un albinos qui est rejeté au niveau de sa famille, il pourra pas affronter le monde extérieur qui est vraiment très dur. Mais si, par exemple, au niveau de la famille, les parents lui disent « Ouais, tu es différent, mais c'est juste quelque chose c'est juste ta peau. Toi, tu es comme ça. Regarde, il y a les Arabes, il y a les Blancs, il y a les Maghrébins et tout. Mais toi, tu es une autre souche. Ça, c'est déjà, ça fait que l'enfant se sent déjà en sécurité chez ses parents. Et aussi vraiment au niveau de l'école, parce que c'est là aussi où les enfants aussi se forment davantage. Que les éducateurs vraiment puissent, dans une classe où il y a l'albinos, que le professeur, l'enseignant puisse en tenir compte que, par exemple, c'est pas un enfant où on va mettre au fond de la classe parce qu'ils ont une vision un peu déficitaire. Donc c'est un enfant qui doit être mis premier, deuxième rangée de la classe. C'est un enfant à qui on doit permettre, on doit lui dire, ouais, faut pas trop jouer sous le soleil, des trucs comme ça. Et une autre chose aussi que quelqu'un avait déjà relevé, c'est l'accès aux produits de soins pour la peau.
Oui.
Ça, c'est vraiment un gouvernement qui veut vraiment protéger cette couche de la population. Voilà des actions qui doivent être faites. Que vraiment, par exemple, dans les pays où il y a les mutuelles pour, par exemple, chez nous, il y a l'assurance maladie, que ces produits puissent être vraiment mis dans la mutuelle, que les albinos puissent avoir accès à ces produits à un coût réduit, que les albinos puissent avoir accès aux soins oculaires à un prix réduit. Ça va leur permettre de vraiment de surpasser un peu cet handicapé. Mais vraiment le grand travail, c'est déjà au niveau des familles, au niveau des structures de base.
Merci beaucoup, madame.
Être bien accepté.
Merci beaucoup, Madame Cindy, de nous avoir appelé de Katumba. C'est à la frontière entre la RDC et le Burundi. Merci pour tous les témoignages et merci aussi pour la proposition. C'est vraiment important. L'accès aux soins à coût réduit, ça doit être vraiment le cheval de bataille, la priorité pour l'autorité publique, afin de permettre à ceux qui l'albinos se sentent à l'aise, mais aussi l'acceptation au niveau de la famille. Nous allons à Guémena, dans la province de l'Équateur. Madame Elodie, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour Perrault, je suis avec vous. Bonjour aussi à M. Texas.
Nous sommes aussi très contents de vous avoir sur les antennes. On vous écoute.
Oui, je voulais aussi intervenir. Une partie aussi de mon intervention, c'était que la dame de Kasumbalé, ça vient d'intervenir.
Moi, Katumba.
Voulais, par exemple, pour les parents qui mettent au monde des albinos, tout doit aussi commencer du bas âge. Parce qu'il y a un auditeur, si je ne me trompe pas, parti, qui disait que les albinos aussi, on peut penser à eux dans des postes de décision, par exemple dans les gouvernements. Alors moi, je voulais dire, s'ils ne s'étudient pas, comment ils peuvent avoir ces postes-là? C'est pour dire quoi? Si je suis, par exemple, une dame qui a mis au monde un albinos, quand l'enfant grandit, il atteint un âge de scolarisation, je vais parler avec mon enfant, lui dire, comme la dame qui m'a précédé a dit, tu sais, dans le monde, il y a autant de races, il y a autant de personnes avec des peaux. Toi, tu fais partie de telle catégorie. Ce n'est pas un problème, ne te complexe pas. Tu parles à ton enfant, tu le fais voir et tu l'envoies à l'école. Maintenant, les parents qui mettent au monde des enfants qui ne sont pas albinos, quand ils grandissent, ils atteignent l'âge de scolarité, dire aux enfants, vous voyez, la même étape, disons. Tu parles à ton enfant, quand tu iras à l'école, tu vas rencontrer de telles catégories de gens. De sorte que quand ton enfant qui n'est pas albinos va à l'école et trouve un enfant qui est albinos, il ne va pas le stigmatiser. Il va comprendre que c'est un homme comme lui. De l'autre côté, l'enfant albinos aussi, à la maison, ses parents lui ont aussi parlé. Il va comprendre que non, je dois aussi ne pas me mettre à l'école, je vais m'approcher de mes amis. Vous allez voir que dès l'école maternelle, ils vont évoluer ensemble jusqu'à à l'école secondaire et il n'y aura pas des différences. Et maintenant, aux dames ou aux enseignants, quand ils enseignent, leur faire voir aussi que vous êtes ensemble, vous êtes des frères et des sœurs, il n'y a pas de problème, c'est juste la peau. Et c'est juste ce n'est pas une maladie, il n'est pas sorcier comme ça. Et vous allez voir que les enfants vont évoluer. Dans ces sens, quand un
adulte
qui vit bien, il va aussi émerger aussi. Et vous allez voir qu'un albinos qui est dans une famille, qui n'est pas bien entretenu ou bien qui est mis à l'écart, quand il grandit, je vais prendre par exemple l'exemple de M. Texas qui est avec nous dans l'émission. Il y a peut-être les membres de sa famille qui ne sont pas des albinos, qui recourent vers lui pour des problèmes de monétaire, par exemple des difficultés, et ils les soutiennent. Aussi, par exemple, dès son enfance, on les déconsidère, il est albinos, qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il émerger dans la vie? Vous trouvez que ça n'allait pas aller aussi, il n'allait peut-être pas
Merci.
Aussi émerger.
Voilà. Et, merci beaucoup, oui, Madame ça, Elodie. Oui. Ça, c'est vraiment important, ce que vous avez dit. Les regards convergés, hein. C'est, cela veut dire que les parents doivent aider au niveau de la famille, l'enfant albinos qui naît. Et aussi, les parents des enfants non albinos, ils doivent leur dire, voilà, quand vous allez dans la société, vous allez rencontrer telle personne. Voilà comment vous devez vivre ensemble. Et ça, c'est vraiment important. Merci beaucoup, Madame Elodie. Nous allons revenir après quelques secondes à notre invité pour placer un mot avant de revenir pour conclure cette émission.
Parole aux auditeurs.
Oui, Texas Wimba, vous avez suivi encore des témoignages et des propositions pour les uns et les autres. En une minute et demie, le temps d'écouter les derniers auditeurs. Quelle est votre réaction par rapport à ce qui a été dit?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que nous, maintenant, au sein de l'ONG de la Fondation Wimba Texas, nous sommes en train de lutter pour scolariser au moins 200 enfants albinos. Et d'ailleurs, la Fondation Gertler a déjà accepté au nom de la Fondation Mouimba Texas, de supporter déjà 20 enfants. Et de l'autre côté, donc nous sommes en train de lutter. Nous sommes en train de faire tout pour le bien des albinos. Et je demanderai aux albinos qui ont ce souci-là d'encadrer les albinos. Ces albinos-là, elles-mêmes, ils sont censés d'abord, ils doivent d'abord travailler. Parce que si vous n'avez rien vous-même, vous voulez créer, par exemple, l'ONG, tout ça, le fait de vous voir pour le bien de tous les albinos, peut-être vous risquerez peut-être de mettre ça de côté. Notre souci est que nous puissions lutter. Et aux non-albinos, vous dites que non, dès que vous avez trouvé des albinos, ça va vous rapporter beaucoup d'argent. Mais frères et sœurs, cette façon de voir les choses est discutable. Vous voyez qu'en face d'un albinos qui a beaucoup de cheveux, mais s'il ne travaille pas, il n'a même pas 50 pas dans sa poche. Alors s'il y a des gens qui veulent bien entrer en contact avec nous, ils peuvent nous appeler au numéro 049-36-895. 099-96-36-895. Ou écrire albinos, smte@yahoo.fr. Albinos, smte@yahoo.fr. ou bien notre site c'est 3xwalbinosfmt.com 3xwalbinosfmt.com.
Merci beaucoup.
Aujourd'hui, monsieur le journaliste,
oui,
notre pays,
oui.
C'est un pays modèle aujourd'hui. Parce que j'étais à Bujumbura il y a cela 3 mois. Dans moins de 15 jours, on peut tuer même 20 albinos. Ce n'est pas le cas ici chez nous.
Voilà. On vous dit merci, hein, vraiment. Merci beaucoup, Texas Wimba, d'avoir accepté notre invitation et pour toutes ces précisions. Courage et beaucoup de bonnes choses et beaucoup de réussites dans ce que vous faites, hein, pour la promotion des albinos. Cela nous permet aussi d'écouter un dernier point de vue, hein, du côté des auditeurs. C'est David qui est à Kindu, dans la province de Maniema. David, en une minute et demie, hein, votre point de vue.
Oui, merci beaucoup. Mon point de vue, je suis tout à fait d'accord avec mes prédécesseurs, mais je voulais souligner quelque chose. Ici, chez nous, au Maniema, Kindu précisément, les albinos se sont assimilés aux personnes vivant avec handicap. Partant de ce que nous voyons ici à Kindu, on les associe. Et aussi, je voulais ajouter quelque chose aux gens qui utilisent les produits pour devenir, pour transformer leur corps. Mais les albinos devraient aussi être fiers de leur peau, parce que vraiment les gens envient leur peau. Ils devraient aussi être très 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 fiers. Dans ce cas, je les encourage. Hein?
Et mais vous dites que les personnes, les albinos sont assimilés aux personnes avec handicap, mais est-ce qu'il y a des initiatives au niveau de Kindu où les gens se battent, c'est travaillent pour leur promotion, pour leur prise en charge?
Bon, au niveau de Kindu, vraiment, tout, je vous ai dit auparavant qu'ils sont assimilés. Ils sont assimilés aux personnes vivant avec handicap. Donc, dès qu'il y a une cérémonie avec les personnes vivant avec handicap, on les associe. Donc, c'est dans ce sens-là.
Merci beaucoup,
il n'y a pas
une
structure appropriée.
Merci beaucoup, David, de nous avoir appelé de Kindu, dans la province de Maniema. Je rappelle encore que Parole aux auditeurs s'est penché aujourd'hui sur la situation des albinos à travers le pays. C'était en marge de cette journée qui a été célébrée ici à Kinshasa, Blanc et Ben, hein, pour valoriser les albinos qui sont souvent victimes des stigmatisations en Afrique et en RDC. Blanc et Ben a été initié par la Fondation Mouimba Texas, lui qui était même notre invité dans cette émission, et soutenu par la Fondation Gertler. Il y a Salif Keïta, le grand musicien, le célèbre artiste qui a chanté. Il y a aussi l'exposition des photos par la photographe belge Patricia Willow, qui a eu plusieurs manifestations, mais l'appel a été lancé pour qu'au niveau du pouvoir public, au niveau de la société, qu'on puisse favoriser un accès égal, hein, à l'éducation, à l'intégration des enfants albinos, sans discrimination dans la société. C'est ce qui a fait que vos propositions ont été les bienvenues. Vous avez été très nombreux à réagir, beaucoup de témoignages dans cette émission, et l'appel a été lancé par notre invité pour tous ceux-là qui voudraient bien soutenir les albinos. Les contacts ont été donnés, mais avec ces objectifs de pouvoir scolariser au niveau de leur fondation 200 albinos. Merci beaucoup à tous les auditeurs. Vous avez été très nombreux à travers le pays à réagir dans cette émission. Nous vous disons sincèrement merci.
Allô? Mais ils ne répondent pas.
On se retrouve le lundi 3 mars prochain, clôture jeudi 25 février dernier à Kinshasa du 17e sommet de la communauté économique des États d'Afrique australe et orientale COMESA. Les chefs d'État et des gouvernements membres ont convenu de la mise en œuvre de l'union douanière et de l'industrialisation de cet espace en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Entre-temps, la RDC est passée à la tête de cette organisation sous-régionale. Comment capitaliser alors ce passage de la RDC à la tête du COMESA? Mais ça, on se retrouve le lundi à 11h30, heure de Kinshasa. Merci à J.R. Lungembo qui nous a aidé à coordonner et réaliser cette émission mise en nom de par Sylvain Matundu. Mais vous allez retrouver Parole aux auditeurs ce soir en rediffusion à 20h30, heure de Kinshasa, à FM bien sûr. Mais l'émission est permanente sur www.radiocapi.net. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Okapi. Au revoir.